RFI.
Alors, on dit quoi ?
Coucou, c'est Diara, nous sommes de retour avec Alors on dit quoi et ce samedi, je vous l'avais promis, place à la lecture. Selon un adage populaire, si vous voulez cacher quelque chose à un Africain, mettez-le dans un livre. Eh bien, Alors on dit quoi va prouver que cet adage n'est plus d'actualité. L'univers des histoires, des romans, de la poésie et des livres est en pleine effervescence sur le continent. Ces dernières années, certains jeunes ont en effet décidé d'œuvrer pour changer le comportement des Africains face à la littérature. Parmi eux, on retrouve deux jeunes Ivoiriennes, Rita Dro, qui est journaliste, et Mireille Tchondé, qui est enseignante. Elles ont décidé de mettre en place des initiatives innovantes. On en parle dès le début de l'émission. Au programme également, notre initiative de la semaine, c'est Salima Taba, qui est coordinatrice du club Zakaria Sall en Mauritanie, un club qui sensibilise les jeunes aux auteurs de leur pays et à la littérature africaine. Et mon coup de cœur de la semaine, c'est Ami Samb, présidente de l'ONG Les Abeilles Solidaires. Son projet, mettre en place une vingtaine de bibliothèques solidaires au Sénégal. Et ce n'est pas tout. Anna et Valdez vous livreront des conseils pour améliorer votre quotidien, des idées pour mieux connaître la culture africaine. Et bien sûr, Valdez décortiquera une infox qui a circulé sur Internet. Voilà, voilà, on y va de suite. Tianudem, c'est parti.
Alors, on dit quoi ? Avec Djaranjay.
Je viens de le dire à l'instant, autrefois, en Afrique, la lecture apparaissait souvent comme un élément totalement étranger au système culturel africain. On voyait cela comme un acte solitaire et silencieux qui s'en sert mal dans une culture où prévalent l'oralité et le sens de la collectivité. Mais aujourd'hui, la donne a changé. L'univers des histoires, des romans, de la poésie et des livres est en pleine effervescence sur le continent. Ces dernières années, certains jeunes ont en effet décidé d'œuvrer pour changer le comportement des Africains face à la littérature. Et pour en parler, je suis aux côtés de Sandy, qui est blogueuse d'Abd Africa. Bonjour Sandy.
Bonjour Diara.
J'ai également en ligne Philippe Rigaud, qui est ivoirien et doctorant en littérature. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors, comme je le disais, parmi ces jeunes qui tentent de répandre l'amour de la lecture en Afrique, on retrouve deux jeunes ivoiriennes, Rita et Mireille, enseignantes et journalistes, qui mettent en place des initiatives innovantes. Elles se battent pour installer la lecture dans le quotidien des enfants en Côte d'Ivoire, grâce notamment à des espaces de lecture qu'elles mettent gratuitement à la disposition des habitants. Reportage de Christelle, notre correspondante à Abidjan.
Selon un adage populaire, si vous voulez cacher quelque chose à un Africain, mettez-le dans un livre. Ces dernières années, certains jeunes du continent, avec des initiatives innovantes, se battent pour installer la lecture dans le quotidien des jeunes en Côte d'Ivoire. Parmi eux, on retrouve deux jeunes dames, Rita Dro, journaliste, et Mireille Tchonté-Silué, enseignante. Dans une commune huppée de la capitale abidjanaise, nous retrouvons Rita Dro. Dans son salon qui lui fait office de bureau, notre jeune blogueuse nous raconte comment lui est venue la passion pour la littérature.
La passion de la littérature ou des livres est née il y a 5 ou 6 ans en arrière que je suis tombée sur l'œuvre de Amadou Koné, Les phrases de Binto, et je suis tombée sous le charme de l'écriture de cet auteur-là parce que il a cet art-là, il sait planter les décors et voilà comment le truc est né.
De cette passion et de son désir de partager avec les enfants et les jeunes de sa cité, naît la boîte à livres qu'elle installe devant chez elle. L'initiative de Rita Dro, c'est une sorte de boîte à lettres en forme de maison avec des couleurs chatoyantes et des dessins. Elle comprend 2 étagères, la première pour les enfants et celle du dessus pour les romans de jeunes et adultes. Ce dispositif attire tout de suite l'attention.
La boîte a été installée il y a 1 mois. Et quand ils ont vu une boîte à livres, ils ont approché. Tous les matins, j'avais 2 ou 3 petits gosses qui traînaient là. Tantis, c'est quoi ça ? Je dis, c'est une boîte à livres, c'est pour vous. Si vous voulez lire, vous venez, vous prenez les livres, à condition de ne pas les salir, de ne pas écrire dedans. Quand vous finissez, vous nous faites des petits résumés.
Pour cette maman, si le jeune Africain ivoirien en particulier n'est pas réellement intéressé par la littérature, cela vient de la base, l'enfance. Toutefois, elle croit que tout espoir n'est pas perdu.
Le jeune, contrairement au tout petit, Ils ont déjà grandi avec cette mauvaise habitude, on va dire, de ne pas lire. Quand ils lisent, c'est surtout les œuvres qu'on les impose à l'école. C'est pas de façon volontaire comme ça. Mais il n'y a rien d'alarmant. Il n'y a rien de dramatique. On peut toujours corriger. On peut toujours corriger en instaurant des livres à la portée de ces jeunes-là. Les livres de façon gratuite.
Si aujourd'hui Rita Drou a pu obtenir l'appui d'un parrain, cela démontre à quel point cette initiative est prometteuse. Rita espère l'appui de bonne volonté pour l'aider à la réussite de ses boîtes à livres.
Pour ceux qui voudront bien offrir des livres, ben, nous sommes là et voilà, nous essayons de nous joindre sur drouville.com, nous laisser un message. Nous nous rendrons chez vous pour récupérer ces livres-là.
Titulaire de master en entrepreneuriat social, Mireille Tchonté, enseignante et blogueuse, a su allier sa formation à sa passion pour l'écriture et la littérature. Nous retrouvons dans un café de la capitale une jeune femme grande au regard déterminé qui nous explique d'où lui vient cette passion.
J'ai eu la chance d'avoir un père qui m'offrait fréquemment des livres. Donc la petite histoire, c'est que quand j'étais petite, ma mère a lu un livre, Les erreurs de maman de Jocelyn Kallah, qu'elle nous a raconté. Et le livre était tellement triste que j'ai pleuré. Et à partir de ce moment, mon père a commencé à m'acheter plein de bouquins et j'ai grandi avec cet amour-là pour la lecture.
L'initiative de Mireille, c'est le centre Ulysse, situé à l'envers comme pour présenter l'autre facette de sa personne. Ce centre est un espace d'études et de lecture à la disposition des habitants. Comme Rita, Mireille a aussi fait des enfants sa cible principale et grâce à ses formules lecture et activités éducatives, elle a su intéresser ces derniers qui ne ratent pas une occasion de venir au centre. C'est le cas de Naomi et Maribel que l'on retrouve au centre Ulysse. Devant l'ordinateur, elles font des exercices donnés par un animateur.
Je me nomme Étienne Naomi Aou Marie Tiffany. Je suis en classe de 4. Je viens ici pour pouvoir apprendre à lire les livres. Et j'aime faire aussi beaucoup les résumés, j'aime beaucoup lire. C'est ma grand-mère qui m'a envoyé ici.
Kofi Miemani, Kifo Esther Maribel. Je viens au centre Ulysse, ça fait un an. Je viens ici pour la lecture et parce qu'on nous reçoit bien ici. Et puis en plus, c'est amusant. Et quand je viens ici et que je lis, j'apprends, je m'instruis moi-même.
En ce qui concerne les jeunes, Mireille a initié des programmes afin de les intéresser un peu plus à la littérature. Le programme J. Ulysse en fait partie.
Alors déjà, il faut savoir qu'avec le centre Ulysse, on a mis en place un programme qu'on appelle le programme J'Ulysse, donc J apostrophe avec Ulysse, et qui fait que je vais chaque mois donner un livre à un groupe de personnes qui sont inscrites au programme pour les amener à lire. Et l'objectif, on va dire majeur, c'est d'avoir plusieurs centres Ulysse à travers Abidjan et à travers la Côte d'Ivoire, pourquoi pas, pour que plus de personnes puissent être rapprochées du livre.
Partie d'un investissement personnel, le centre Ulysse bénéficie aujourd'hui de l'accompagnement de personnes qui croient en ce projet et qui, comme Mireille, veulent changer le comportement des jeunes vis-à-vis de la littérature.
On a de plus en plus d'initiatives pour démocratiser la lecture, pour que tout le monde, sans aucune distinction, se comprenne que c'est important de lire et qu'on peut en avoir pour tous les goûts. Actuellement, on reçoit beaucoup plus de dons, on achète pratiquement plus de livres.
Elles sont jeunes, africaines et ont une vision pour l'avenir de la jeunesse du continent et de la Côte d'Ivoire en particulier. À travers leurs initiatives, elles prônent le développement du pays par le biais de la littérature. Avec elles, l'adage devient « Si tu veux dire un secret à un Africain, mets-le dans un livre ».
Merci Christelle pour ce reportage très intéressant autour d'initiatives pour faire aimer la lecture. Alors Sandy, est-ce que vous êtes d'accord avec notre correspondante? Il faut désormais dire, si tu veux dire un secret à un Africain, mets-le dans un livre.
Mais je suis tout à fait d'accord parce que justement, comme elle le dit dans le reportage, c'est quelque chose qui change de plus en plus. C'est des initiatives qu'on voit de plus en plus. C'est des initiatives aussi bien au niveau de la lecture, aussi bien au niveau d'association, aussi bien au niveau, même sur les réseaux sociaux, on incite de plus en plus aux Africains, aux Afro-descendants de lire et je pense que c'est vraiment des initiatives qu'il faut pousser.
Alors, on a également en ligne avec nous Philippe, qui est ivoirien justement. Est-ce que vous connaissez les initiatives qu'ont mises en place Rita et Mireille?
Personnellement, non, je ne le connaissais pas. Je le découvre avec vous, avec ce reportage, bien évidemment.
Mm-hmm. Et que pensez-vous justement de ces initiatives, Philippe?
Bien, ce sont des initiatives assez salutaires qui encouragent nos jeunes gens, nos jeunes élèves à s'intéresser à la lecture, à se cultiver, à considérer le livre comme un bien culturel qui va participer à leur développement intellectuel surtout.
Alors, Sandy, Rita propose une boîte à livres et Mireille, elle propose un espace de street reading aux enfants. Bonne cible d'ailleurs. Sandy, vous, votre amour pour la lecture, quand est-ce qu'il a débuté?
Alors moi, mon amour pour la lecture, il a débuté toute petite. Je lisais toutes les Martines, j'avais toute la collection. Quand j'étais en primaire, ça a commencé avec les Max et Lily. Ma mère m'avait abonné à Je Bouquine. Et en fait, j'ai toujours lu. Et puis, il y a un moment où ça s'est arrêté avec les études, etc. Et
surtout, on aurait pu penser le contraire, justement.
Bah, justement, avec les études, moi, j'ai fait une classe préparatoire. Et en classe préparatoire, on n'a pas trop de vie à part les études. Voilà, à part les études, les contrôles, etc. Et j'ai eu besoin de retrouver en fait cet univers de lecture que j'avais quitté avant et j'ai découvert vraiment d'une toute autre manière parce que je me suis rendu compte justement que la manière dont j'avais été éduquée de matière littéraire avait été avec des gens qui ne me ressemblaient pas forcément. Et là où j'ai repris le goût pour la lecture, c'est quand j'ai découvert des écrivaines comme Chimamanda Ngozi Adichie.
Absolument, qui la nigériane.
Ouais. Exactement, l'écrivaine nigériane qui m'a fait découvrir le Nigeria, qui m'a fait découvrir...
Vous avez commencé avec Americana ?
J'ai commencé avec L'autre moitié du soleil. Americana est très connu, très apprécié, et c'est un livre formidable. Mais c'est vrai que L'autre moitié du soleil, pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre.
Absolument.
C'est vraiment un coup de cœur.
Absolument. Et est-ce que d'autres membres de votre famille lisent également ? Vous parliez de votre mère qui vous a un peu initié à cette lecture.
Oui, ma mère m'a initié à ces lectures, mais la personne qui lisait beaucoup chez moi, c'est mon père, et qui lit justement beaucoup de littérature qui touche l'histoire africaine, qui touche le monde noir. Et très tôt, il a voulu, à travers les livres, à travers d'autres médias également, mais surtout à travers les livres, nous transmettre en fait toutes ces informations,
une transmission qui vient de vos parents. Donc,
exactement.
Alors, on a des auditrices en ligne aujourd'hui. On va commencer par Marie, qui est une jeune étudiante sénégalaise de 24 ans. Bonjour Marie.
Bonjour Diara.
Alors vous avez été bercée par la lecture très tôt, ou alors plutôt dans votre adolescence, comme c'est le cas pour Sandy. Racontez-nous.
Je crois que j'ai grandi avec les livres. Je suis née et j'ai trouvé les livres chez moi.
Alors, décrivez-nous votre passion pour la lecture. Qu'est-ce que vous procure cette sensation d'avoir un livre entre les mains ?
La première chose, c'est que ça m'a tellement fait voyager tous les livres que j'ai lus que j'ai l'impression d'avoir fait tous les pays du monde, de connaître encore plus de culture. Je trouve que j'apprends beaucoup de choses avec les livres.
Alors, on a parlé d'initiatives pour donner envie de lire. Vous, comment faisiez-vous, jeune enfant, pour vous procurer des livres au Sénégal ?
Au Sénégal, alors, à part les livres de chez moi que je n'ai pas fini de tout lire, j'ai tout le temps été au Centre culturel français, dans leur bibliothèque, en tout temps, pendant tout mon cursus scolaire.
Donc, vous aussi, vos parents vous ont initié à la lecture ?
Oui, exactement, mon papa surtout, qui, à chaque occasion, n'hésite pas à me donner des livres comme cadeau.
Et la lecture, c'est votre passe-temps, c'est votre passion, une passion qui vous a poussé à écrire. Vous avez sorti en 2016 un recueil de poèmes, le Cri du vieux muet. Depuis quand écrivez-vous, Marie ?
Avant d'écrire, je lisais plus par curiosité, puis à force de lire, l'écriture s'est imposée à moi. Et pendant 3 ans, j'ai voulu partager avec les autres quelque chose, comme tout ce que les livres m'ont appris, m'ont donné. Je voulais, à mon tour aussi, partager cela avec d'autres. C'est pourquoi j'ai écrit mon premier recueil, Le Cri du vieux muet, qui est sorti en 2010. Et actuellement, je travaille sur mon premier roman, intitulé Livre dans ma folie. Je vous donne l'exclusivité.
Merci. Alors, on dit quoi ? Elle n'hésitera pas à revenir vers vous, justement, quand il sera publié. Merci infiniment pour cet appel, Marie.
Merci beaucoup, Diara.
Place maintenant à Adjar, qui, elle, a 22 ans. Elle est étudiante et slameuse à Saint-Louis. Bonjour, Adjar.
Bonjour, Diara.
Alors, vous aussi, vous avez toujours baigné dans le domaine de l'art et de la lecture. Mais dites-nous, que lisez-vous, Adjar ?
Alors, je lis un peu du tout. J'ai toujours aimé la lecture. C'est surtout l'écriture qui m'a amenée à la lecture, moi, je dirais. Et j'ai toujours eu une certaine curiosité. J'ai toujours eu envie de savoir ce qui s'est passé autour de moi, comment les autres vivent, comment se passent les autres cultures, comment elles vivent, etc. Et étant issue du métissage, j'ai toujours eu cette curiosité de chercher comment vit l'autre. Et c'est cette curiosité qui m'a amenée à la lecture, en fait.
Et avec l'arrivée des réseaux sociaux, les jeunes sont très branchés numériques, on va dire. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être un extraterrestre avec cette passion littéraire ?
Non, heureusement. Je pense que les réseaux sociaux ont deux rôles prédéfinis. Ça empêche de lire d'un côté, et de l'autre côté, ça encourage à lire. Parce qu'on est dans une ère de chacun a son mot à dire. Et la lecture, pardon, est liée au savoir. Donc tout le monde a besoin de savoir ce qui se passe, a besoin de donner son opinion. Alors les gens cherchent à lire pour pouvoir affirmer leur opinion sur les réseaux sociaux.
Et c'est marrant parce que pour vous aussi, comme pour Marie, la lecture et l'écriture sont indissociables. Résultat, vous venez de publier votre premier recueil de poèmes.
Oui, je viens de publier mon premier recueil de poèmes, Stella Armata au Sénégal, Lambeau des Reins.
Et que raconte ce recueil ?
Des Lambeaux des Reins, c'est un peu un tout. Je pense que c'est surtout un voyage en moi et à l'extérieur.
Merci beaucoup Adiar pour cet appel et puis bonjour à nos auditeurs sénégalais. Alors Philippe, dites-nous, on parle d'amour et de comment cet amour est né. Dites-nous, comment expliquer votre amour pour la lecture ?
Alors mon amour pour la lecture me vient de mon père.
Décidément les papas, ils sont initiateurs de beaucoup de choses. Hein.
Effectivement. Il est autodidacte, il a appris à lire et à écrire tout seul. Bon, grâce à des gens, mais pas à l'école. Et c'était curieux de voir toute l'énergie qu'il dégageait pour lire, pour apprendre à lire. Quand j'avais 7 ans, je me souviens qu'il m'envoyait chercher des journaux et qu'il me partageait chaque fois ses lectures. Alors, quand je commençais à lire aussi, mon amour était pour le vocabulaire. Donc, il y a des mots que j'aimais découvrir et que je notais dans un petit carnet. Et c'est ainsi que ça va se développer mon amour, ma passion pour la lecture, mm-hmm. et qui va me toucher beaucoup, qui va véritablement me toucher et me consacrer entièrement à la lecture. C'est que je cherchais, en écrivant un poème, comment on appelait le coussinet. Alors j'ai été voir mon père comme d'habitude quand j'ai des difficultés au niveau du vocabulaire, mm-hmm. pour qu'il me dise comment tel objet ou telle chose s'appelait. Et il m'a dit non, j'ai oublié, mais je sais qu'il est dans tel livre. Et le livre, c'était Le Monde s'effondre de Chinua Achebe. Alors il a été me trouver la page exacte où se trouvait le mot, le coussinet, et il me l'a montré. Et j'étais tellement émerveillé que depuis ce jour, j'ai pu lâcher le livre.
Ce qui est intéressant également, c'est que vous avez étudié jusqu'à la licence en Côte d'Ivoire, puis vous êtes venu étudier la littérature en France, à Paris. Et il y a une différence qui vous a frappé lors de votre arrivée. Racontez-nous, Philippe.
Oui, alors c'est la première fois déjà que j'emprunte le RER. Je suis frappé par le nombre de personnes qui ont des bouquins en main, alors que d'ordinaire, c'est plus des téléphones portables qu'on a sous les yeux. Mais je les observais, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont à tous avoir des livres en train de lire ?
Et Philippe, vous aussi, les initiatives qu'on a mises en lumière aujourd'hui dans cette émission avec Rita et Mireille, ça vous intéresse parce que vous avez vous aussi créé un club de lecture à Boaké, c'est bien ça ?
Nous avons créé un club avec un groupe d'amis. On a créé le club littéraire de l'université Alassane Ouattara. Et donc, il visait à donner un peu plus de connaissances littéraires aux jeunes de licence, à ceux qui embrassaient la carrière de littérature et à ceux qui s'y intéressaient pas. Puis là, je faisais par plusieurs activités à travers les déclamations, les représentations théâtrales. Et on a aussi créé un groupe Facebook où on partage nos lectures, on fait des résumés et pour toujours inciter la jeunesse ivoirienne et étrangère à s'intéresser aux livres.
Sandy, une bonne question. Comment amener justement efficacement les enfants à s'approprier le livre et à créer à la fois un désir, surtout parce que c'est important, ce désir de lire?
Ben moi, je pense qu'il y a deux choses. Comme on le dit, ben on l'a vu pendant toute l'émission, il y a une première chose qui vient de l'exemple que les parents vont montrer, qui vient de l'éducation. On dit, c'est mon père qui m'a donné envie de lire, je voyais ma mère faire ceci. Donc en fait, en tant qu'enfant, si je vois mon père en train de lire, si je prends le RERB et que je vois que plein de gens sont en train de lire, ben j'ai envie moi aussi de reproduire les mêmes habitudes et de commencer à lire. Je pense que c'est la première chose. La deuxième chose, pour vraiment donner envie aux enfants de lire, c'est de leur proposer aussi une littérature qui leur ressemble, de leur proposer une littérature, comme je disais moi au début, je disais des Maxilly, je disais des Martine. Martine, elle a les yeux bleus, elle a des cheveux lisses,
elle ne me ressemble pas du tout physiquement.
Donc je pense que ça donne envie quand je vois dans des livres des images qui me ressemblent et ça va me donner envie d'en lire plus quand je suis enfant et de continuer après quand je deviens jeune adulte.
Oui, et puis c'est intéressant aussi de diversifier même la lecture des poèmes, des livres de recettes, des livres de spiritualité, pourquoi pas commencer avec un une Bible tout simplement, voilà, et diversifier comme des albums photos ou plein de choses comme ça. Vous, en tout cas, la lecture a initié un projet. Parlez-nous justement d'Abnafrica.
Oui, tout à fait. Donc Abnafrica, comme j'aime à le dire, c'est révéler l'afro-curieux qui est en vous. Et en fait, moi, je dirais que c'est vraiment parti d'une frustration, en fait, Abnafrica. C'est parti de la frustration dont on parle, exactement. La représentation, une frustration aussi au niveau de l'histoire. Moi, en tant que femme noire qui a grandi en France, la première fois où dans le programme scolaire des gens qui me ressemblent sont entrés dans l'histoire, on parlait de l'esclavage, on parlait de la colonisation, on parlait d'hommes noirs soumis ou qui sont en train de se battre pour ne plus être soumis. Je pense aux droits civiques de Martin Luther King. Et comme si l'histoire noire n'était réduite qu'à ça au final. Et quand je grandis, je lis de plus en plus, je vais à des conférences, je pose des questions et je découvre plein de choses. Je découvre plein de choses. Je me dis, mais il y a eu un problème. On m'en a pas parlé à l'école, c'est bizarre. Et pareil au niveau de la manière dont on montre l'Afrique aujourd'hui, le traitement médiatique que l'Afrique a aujourd'hui. Je voyage, je vais au Ghana, je reviens. Je me dis, mais c'est pas ça que je voyais à la télé. Donc je me suis dit, en fait, qu'on m'a pas appris à l'école, je vais lire, je vais faire des recherches, je vais l'apprendre et je vais aller le partager sur Abnafrica. Ce qu'on me montre pas à la télé, je vais prendre des billets d'avance, je vais voyager et je vais le montrer aussi, je vais encourager l'afrodescendance à aller voyager justement dans ces pays-là. Et c'est comme ça justement qu'est né le projet Abnafrica.
Et Abnafrica, ça signifie quoi?
Alors Abnafrica, ça veut dire Abna, c'est A-B-E-N-A, ça veut dire, c'est le prénom qu'on donne à une fille quand elle est née un mardi au Ghana. Le Ghana, c'est le premier pays où je suis allée.
Et ça a été une découverte, le Ghana.
Ça a été une véritable découverte, le Ghana. Quand je suis arrivée, c'était le tout premier pays africain. J'arrive, je suis seule dans un groupe d'hommes pour faire du volontariat. Personne parle français. Moi, je parle un petit peu anglais. On me dit, tu ressembles à une Ghanéenne. T'es née quel jour? Il faut qu'on te donne un prénom ghanéen. Et voilà. Et on m'a dit, t'es née un mardi, tu t'appelleras Abna. Et au fur et à mesure, avec tout cet univers que j'ai créé, avec toutes les expériences que j'ai eues, je me suis dit que ce serait vraiment le nom adéquat pour...
Et qui est-ce que vous ciblez particulièrement dans ce blog?
Alors sur ce blog, je cible tous les afro-curieux, je cible tous les amoureux de l'Afrique, je cible toutes les personnes qui ont envie d'en savoir plus sur l'histoire de l'Afrique, sur l'histoire des Antilles, sur l'histoire des Noirs en général, et toutes ces personnes qui peuvent être intéressées par toutes les petites anecdotes qu'on peut trouver, les empires, les grands empires africains, les inventeurs noirs, sur les livres aussi, je lis énormément.
Citez-nous un livre que vous recommanderez à nos auditeurs, par exemple.
C'est une question difficile.
Ah oui, c'est très difficile, un petit choix.
Bon, alors, comme il faut absolument que je choisisse, je vais recommander le livre Noir entre peinture et histoire. Ce livre, ça a été une révélation pour moi fin 2018, parce que comme je dis, je suis passionnée de l'histoire africaine, et pourtant quand j'ai lu ce livre, je crois qu'il y avait la moitié des histoires que je ne connaissais pas. Dans ce livre, donc les auteurs Neil Verndoy et Grégoire Fauconnier ont rassemblé plus de 300 tableaux, 300 portraits de la représentation des Noirs qu'il y avait en Europe. Donc des tableaux, moi quand j'étais à l'école, on revient encore à l'école,
oui,
des sorties
oui,
au
oui.
musée, sur les tableaux, je voyais des Louis XIV, des
Napoléon, des Mandela, mais je voyais... des Courbats.
Exactement. Et dans ce livre, en fait, j'ai découvert énormément de personnages historiques de la mythologie jusqu'à la moitié du 19e siècle. Et je pense que c'est bien parce que c'est un livre qui est familial, c'est un livre qui touche tout. On parlait tout à l'heure comment donner envie aux enfants.
Absolument.
Dans ce livre, il y a plein d'images, il y a plein de grandes images. Donc c'est aussi bien pour nos petits neveux et nièces que pour nos grands-parents et que pour nous-mêmes jeunes adultes aujourd'hui.
Une dernière question, Sandy. Est-ce que selon vous, l'amour de la lecture, ça s'apprend? Ou alors plutôt, ça se transmet?
L'amour de la lecture, ça se transmet. L'amour de la lecture, je pense que c'est quelque chose... à tout moment dans nos vies, il y a un moment où la lecture entre dans notre parcours. Après, à nous de la saisir ou pas. Et si on la saisit pas, il y a des plateformes comme les initiatives qu'on a vues au début de l'émission, comme Abnafrica, comme plein d'autres initiatives qu'on voit de plus en plus dans les réseaux sociaux. Comme elle le disait tout à l'heure, ça empêche de lire, mais en même temps, on partage énormément. Et il suffit de donner envie et de transmettre.
En tout cas, votre site donne envie. Donnons à nos auditeurs l'occasion de s'y rendre avec l'adresse.
Alors, Abnafrica, c'est sur www.abnafrica.com.
Merci infiniment, Sandy, d'avoir participé à cette émission.
Merci à toi, Dira.
Merci également à vous, Philippe.
Merci.
Alors, on dit quoi ? Jaranjai.
Et samedi prochain, place au manga. Depuis la fin des années 1980, les mangas japonais ont envahi la planète, tant et si bien que le Japon est aujourd'hui le deuxième pays exportateur de biens culturels derrière les États-Unis, grâce aux mangas ainsi qu'aux animations et films qui en sont tirés. Nous verrons que contre vents et marées, et bien que décrié et incompris au départ, le manga a acquis ses droits en Afrique. Allez, un peu de musique, direction l'Angola avec Matrimonio d'Adi Kudz.
Coisas doces, baby. I love you, baby. Devia estar feliz. Porque tu estás feliz. Queria ser suir. Que te faz feliz. Que te beija na boca. O homem que te leva ao altar. Sonhaste comigo. Mas com ele tu estás a casar. Porque eu te bandira. Deixei fugir o amor da minha vida. Desculpa, no meu coração. Prometi amor, mas baby, foi tudo jajão. Puto imaturo, matumbo, sem foco, birrento, covarde. Eu sei que eu fui. Agora eu choro, imploro, eu rezo, eu faço de tudo pra te ter de volta. Não, não.
C'était Matrimonio d'Adi Kudz.
Alors on dit quoi ?
Notre initiative de la semaine, c'est Salima Taba, une jeune Mauritanienne qui, elle aussi, a fait de son credo la lecture. Bonjour Salimata.
Oui, bonjour Gara.
Alors, l'aventure du club Zakaria Sal a débuté en 2014. Racontez-nous les prémices du projet.
Alors, c'est en 2014, effectivement, que ce club a vu le jour. Moi, j'ai rattrapé le club parce que je suis venue en 2015 et des jeunes Mauritaniens qui l'ont créé, partant d'un constat. D'abord, le nom de l'auteur, Djibril Zakaria Sal, c'est un auteur mauritanien qui a aujourd'hui 80 ans, auteur de 6 recueils de poèmes, publié 3 recueils de poèmes inédits. Voilà, donc c'est parti d'un constat. La littérature mauritanienne est une littérature très riche et diversifiée, mais une littérature pas très bien connu malheureusement par surtout les plus jeunes générations. Et voilà, c'était plus pour faire connaître cette littérature-là que ce club a eu, voilà, a vu le jour.
Alors, quelles sont les activités qu'organise le club Zakaria Sal?
Des ateliers de réflexion sur comment promouvoir la lecture en milieu scolaire, en milieu périscolaire. Mais ce qu'on fait en général aussi, c'est de travailler avec les lycéens et les collégiens en amenant des textes d'auteurs mauritaniens. Voilà, les distribuant, discuter avec les élèves et aussi déplacer les auteurs pour les amener dans les écoles pour qu'il y ait une certaine proximité, que le livre ne soit pas trop trop loin en fait des jeunes. Et là, pour attirer, parce que naturellement, enfin aujourd'hui ce n'est pas du tout un secret, les gens lisent de moins en moins, surtout les plus jeunes. Là, on essaie de créer des choses pour les attirer. Par exemple, là, nous sommes en train de travailler sur un projet de compilation de poèmes en mettant en audio, en mettant de la musique de fond. puis inviter des slameurs, des rappeurs, des jeunes collégiens et lycéens à lire des textes.
De façon ludique finalement, et avec plus d'interaction, c'est ça?
Absolument. Et de montrer juste en fait qu'un texte dans un livre est mort, et c'est à chacun d'entre nous d'y mettre une âme.
C'est une très belle phrase. Alors dites-nous, Salimata, vous êtes passionnée, vous. Pourquoi la littérature est selon vous fondamentale pour le développement humain et notamment des jeunes?
Moi, je vais vous dire, cette littérature en particulier, elle m'est tombée sur la tête quand j'étais à l'université. Je ne connaissais pas du tout la littérature mauritanienne et un ami m'a invité à faire partie d'un groupe de lecteurs pendant un festival au niveau local, le festival Traversée Mauritanie. Et je lisais des textes, je trouvais que c'était magnifique et c'était des textes qui me parlaient. Là, quand j'ai demandé, on m'a fait comprendre que c'était des textes mauritaniens. Ce que je trouve intéressant dans la littérature, c'est que moi, je dis à mes amis, j'ai pas les moyens de voyager physiquement, mais chaque livre me fait voyager dans plusieurs mondes, que ce soit dans le passé, le présent ou le futur. Et je trouve que ça, c'est vraiment un point très intéressant que personnellement, fait que j'aime cette littérature. Et j'aime la littérature d'une manière générale.
Et ce voyage dont vous parlez, que vous décrivez si bien autour de la lecture, justement, est-ce que vous sentez une interaction? Est-ce que vous sentez que les enfants sont réceptifs à ce message d'amour autour de la lecture?
Oui. Maintenant, c'est à nous, en fait, de changer la manière dont on promeut la lecture. Parce que moi, je pense que tout le monde, quelque part, aime la lecture. C'est la manière dont aujourd'hui on est en train de promouvoir la lecture, peut-être qui est encore très classique, qui ne plaît pas, et qui fait qu'un livre est égal à une heure de sommeil ou est égal à voilà. Mais là, quand on met de la musique et que la personne qui en parle et on sent qu'il vit, eh ben ça transporte carrément les enfants. Et de plus en plus, il y a plein de jeunes qui aujourd'hui nous disent « Nous, on veut intégrer le club, on trouve que c'est intéressant et tout. » Donc voilà, c'est juste le côté ludique, on doit vraiment le mettre en avant pour que les enfants en fait puissent tout simplement voyager avec nous.
Merci beaucoup, Salimata. Je rappelle donc que vous êtes l'une des fondatrices du club Zakaria Sal.
Merci beaucoup.
Alors on dit quoi?
Bonjour Gara Ndiaye de l'émission Alors on dit quoi? Bonjour chers auditeurs et auditrices de RFI. Je suis tout de même heureux d'être avec vous et de pouvoir lancer un message à l'endroit de la jeunesse africaine, qui est une jeunesse battante, une jeunesse engagée et une jeunesse vraiment qui mérite tout le respect du monde. Les braves jeunes africains, redonnant une dignité à ces pauvres continents, je suis fermement convaincu que nous, les jeunes africains, nous sommes le noyau de l'évolution future de l'Afrique et du monde. C'est à nous de bâtir notre Afrique et de le mettre sur la voie du développement. Nous ne sommes pas obligés d'aller mourir dans la Méditerranée puisqu'on a tout ici chez nous. Qui part de l'Afrique part forcément des ressources minières, des terres fertiles, des cultures exceptionnelles. On n'a rien, absolument rien à envier aux autres. Nous devons juste nous mettre au travail afin d'exploiter nos propres potentialités.
Abdel Nasser a bien raison. Le continent africain peut et doit se développer seul. La jeunesse est sa force, alors bâtissons notre avenir. Et vous aussi, laissez-nous un message sur le compte WhatsApp d'Alors on dit quoi? Présentez-vous avec votre nom et prénom, définissez-vous en trois mots-clés, adressez ensuite votre message à la jeunesse africaine, puis aux aînés, et expliquez-nous votre Afrique qui gagne.
Appelle-nous sur WhatsApp au 33 647 740 742.
Alors on dit quoi? Dit stop aux infox qui circulent partout sur Internet. Nous vous proposons de vérifier des faits consacrés à l'Afrique en collaboration avec l'école de journalisme EGICOM et avec Africa Check, un site de vérification des fausses nouvelles. Bonjour Valdez.
Bonjour Diara.
Valdez, des recettes à base d'ingrédients naturels sont présentées dans des articles largement partagés sur les réseaux sociaux, comme pouvant faire perdre de la graisse du ventre. Alors pour commencer, en quoi consistent ces recettes?
Alors que ce soit dans des articles ou des vidéos sur des plateformes telles que YouTube, les recettes présentées comme éliminant la graisse du ventre sont nombreuses. eau, citron, persil, concombre, gingembre, cannelle, menthe, les recettes dites de grand-mère, secrètes, miracles, radicales, pour éliminer la graisse du ventre, ne cessent d'être relayées sur Internet. À quelques différences près, elles consistent à mixer du jus de citron, du jus d'orange, du miel, du gingembre râpé, du persil, du concombre, des feuilles de menthe fraîches ou encore quelques cuillères à soupe de vinaigre de cidre avec 1 ou 2 litres d'eau. En fonction du mélange indiqué, il est garanti que cette boisson est très efficace pour perdre du poids, brûler la graisse du ventre et réduire le taux de cholestérol.
Sont-elles véritablement efficaces ces mixtures ?
Déjà, il est assez difficile de perdre du ventre et c'est important de le faire savoir à nos auditeurs Diara. On comprend que certains tombent facilement dans le piège de ces recettes miracles, mais la diminution ou l'élimination de la graisse abdominale demande souvent des efforts physiques réguliers et considérables. La difficulté à se débarrasser de ce type de graisse peut être expliqué par le rôle qu'elle joue dans l'organisme. C'est ainsi que le docteur Martine Duclos, qui est chef du service de médecine du sport et des explorations fonctionnelles au CHU de Clermont-Ferrand en France, a confié à West France que la graisse sous-cutanée est une réserve physiologique et énergétique. Elle a aussi précisé que cette couche de graisse est utile car c'est notamment dans cette zone que sont puisés les sucres nécessaires à l'organisme en dehors des repas. Toute personne en bonne santé en a donc besoin pour vivre, il ne faut pas la supprimer, a donc conseillé la spécialiste. Aussi, la diététicienne nutritionniste Adélaïde Daboville indique que boire de l'eau avec du citron n'a jamais fait mincir personne. En effet, l'infusion n'agit pas directement sur les graisses, fait-elle savoir.
Avez-vous obtenu l'analyse d'un autre spécialiste, Valdez ?
Oui, Diara, et dans un entretien à Africa Tchèque, le docteur Mam Bayam Dion, qui est médecin nutritionniste ici à Dakar, a affirmé qu'il n'existe aucune recette miracle pour perdre du ventre. Selon elle, si le citron est un antioxydant qui peut aider à se sentir mieux en forme et permettre à l'organisme de mieux récupérer, cela ne veut pas pour autant dire que tout ce qu'on en dit est vrai. Par conséquent, elle conseille de toujours être à l'écoute de son corps. Sachant que le citron est acide, elle prévient que sa consommation immodérée peut déclencher des maux chez une personne qui a des problèmes gastriques. Aussi, dans un entretien accordé cette fois à Madame Le Figaro, la diététicienne Florence Foucault, membre de l'Association française des diététiciens et nutritionnistes, précise que l'acide citrique du citron aide à digérer les lipides, mais n'empêche pas de les stocker. À ce jour donc, aucune étude ne prouve que le citron fait maigrir, assure-t-elle. En général, Diara, les spécialistes, qu'ils soient diététiciens ou nutritionnistes, conseillent de pratiquer de l'exercice physique pour brûler les graisses.
Merci, cher Valdez, à très vite.
Kimi Tamba on the beat.
Kanjakora.
Mon kiff musical de ce samedi, c'est Candia Cora. Je suis sûre que vous connaissez déjà. C'est un prodige de la cora qui a grandi avec cet instrument mandingue à la main. Il est né à Conakry, en Guinée, de son vrai nom Candia Kouyaté. Il est le fils du griot Mbadi Kouyaté et le frère du musicien soliste Sekou Kouyaté. Et là, je vous propose d'écouter son titre 60 ans avec sa cora et sur un rythme afro. Candia Cora s'adresse au cœur du peuple guinéen. Sans l'unité, nous ne pourrons rien réaliser en Guinée. Tel est en partie le message rassembleur livré par l'artiste. On l'écoute.
Coucou Diara, salut la team. Alors on dit quoi ? C'est Candia Cora, artiste guinéen. Merci de m'avoir invité dans ton programme. Alors je chante 60 ans, une chanson que j'adresse à une jeunesse unie, jeunesse pleine d'espoir. Une jeunesse qui se bat matin, midi, soir pour un changement. Et voilà, tant qu'on est ensemble.
Rouge, jaune, vert, elle est ma fierté. Le rouge, jaune, vert, elle est ma force. La Guinée, moi je t'aime. Rosso Wongoni, Wongoni Alani. Rosso Wongoni, Wongata, 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 Wongoni Rafera. La Guinée de Omirin Kere,
Omirin Kere, Kere, Kere,
yeah, wow. C'est le pays de Samori Touré, Sékou Touré, Dina Salifou,
cœur de la semaine, c'est Ami Sam, elle est présidente de l'ONG Les Abeilles Solidaires. Hello Ami.
Hello Diara.
Alors, je vous ai choisi car l'ONG a justement mis en place un projet très intéressant, super intéressant autour des livres. Racontez-nous.
Alors, Les Abeilles Solidaires, c'est une ONG qu'on a mis en place depuis 2018. Et effectivement, comme tu l'évoquais à l'instant, en fait, l'idée de l'association, en fait, c'est de mettre en place des espaces sains afin de permettre à tous les Sénégalais, notamment aux enfants, plus particulièrement, d'avoir accès à la lecture, mais aussi à la culture plus facilement.
On aurait dû peut-être poser cette question en premier, mais alors, les abeilles solidaires, on aurait pensé à un projet autour du miel, je ne sais pas. Pourquoi les abeilles solidaires, Ami?
Super bonne question. Bon, je pense que tu n'es pas la seule à me poser cette question. On me pose tout le temps la question. Mais les abeilles solidaires, alors c'est inspiré tout simplement des abeilles parce que, d'une part, ils sont très très solidaires entre eux, et d'autre part aussi, je pense que les abeilles sont très intelligents parce qu'ils butinent des fleurs pour créer quelque chose de vraiment merveilleux, qui est le miel, qui est pour moi à double usage parce qu'on peut l'utiliser tout simplement pour se soigner ou par simple plaisir sur un gâteau ou sur un pancake, etc.
Ah oui, c'est délicieux.
Voilà, c'est super
le miel,
délicieux. Voilà, donc du coup, c'est de là. Où est partie en fait cette idée-là des abeilles solidaires. Donc nous, notre idée, c'est tout simplement d'aller auprès de chaque personne, prendre ce qu'il y a de meilleur pour créer ces bibliothèques-là, parce qu'on a quand même sollicité pas mal de personnes, notamment dans la collecte, que ça soit dans la collecte de fonds ou dans la collecte des livres, pour mettre en place ces bibliothèques pour que les enfants puissent se cultiver, mais également puissent tout simplement avoir des moments de loisirs.
Alors, voilà. Vous avez justement choisi les enfants parce que ce sont des cibles très importantes pour initier à la lecture de façon très tôt, en fait.
Oui, effectivement, parce que pour moi, l'enfance, c'est le moment où, en fait, on est vraiment connecté à l'intelligence infinie. Et du coup, c'est le moment où vraiment, on doit plus encourager les enfants à lire, à avoir l'esprit ouvert sur le monde, à découvrir plein de cultures, parce que la lecture, ça ouvre non seulement l'esprit, mais ça brise, on va dire, les barrières et les frontières. Et donc, du coup, c'est le moment idéal pour lire pour moi.
Et j'imagine que vous aussi, vous appréciez énormément la lecture.
Ah oui, j'apprécie beaucoup la lecture. Et à un moment donné, enfin, je le disais à un ami il y a un moment, la lecture m'a vraiment sauvée. En tout cas, m'a permis de dépasser certaines de mes limites. Et ça, je trouve ça merveilleux. Et donc, j'aimerais bien
transmettre ça finalement aux enfants.
Voilà, exactement.
Et d'ailleurs, dans votre projet, vous envisagez également des activités annexes dans les centres que vous voulez installer au Sénégal?
Effectivement, on voudrait bien, en fait, au niveau des bibliothèques, puisque là, ça sera des grandes infrastructures, d'avoir la possibilité d'accompagner, d'orienter les femmes, mais aussi d'accompagner les jeunes qui ont des projets à impact social, que ça soit dans la conceptualisation de leur projet jusqu'au financement.
Une dernière question, Ami. Alors, où en est l'état du projet? Je sais que vous avez déjà collecté pas mal de livres.
Effectivement, on a collecté aujourd'hui 40 000 ouvrages qu'on a aujourd'hui qui vont partir au niveau du Sénégal. Et normalement, on a un planning prévisionnel entre fin avril, début juin pour l'installation des premières bibliothèques dans les 5 communes de Ngoy, Djourbel, Labgar-Thiès, Louga, dans la commune de Labgar, Guédiouaï, Medina Gounas et Grand Yoff. Donc voilà.
Eh bien, Inch'Allah. Comme on dit chez nous.
Inch'Allah.
Merci beaucoup, Ami.
Merci beaucoup, Diara.
Alors, on dit quoi sur RFI?
Place à la minute d'Anna. Bonjour Anna.
Bonjour Diara.
Vous nous parlez de poésie aujourd'hui.
Absolument Diara. Je vous présente Poésie de jeunesse, le tout premier recueil de poèmes d'un jeune auteur franco-ivoirien, Guillaume Mao. Passionné de littérature depuis l'enfance, il commence à écrire ses premiers poèmes à l'âge de 17 ans.
Hâte d'en savoir plus sur ce recueil, Anna.
Ce recueil nous propose des thèmes classiques de la poésie lyrique, une poésie où le poète exprime ses sentiments personnels, intimes, comme des souvenirs d'enfance, l'amitié, l'amour, pour en nommer quelques-uns. Derrière ces lignes bien agencées se cachent des expériences stylistiques riches d'images, aussi drôles qu'acerbes, sans nous épargner des interrogations plus sombres, plus intimes. Adepte du zigzag, le poète n'hésite pas à raconter des histoires, à parler de l'écriture elle-même, à sonder avec franchise ses souvenirs d'hier et d'aujourd'hui, ses fantaisies et ses blessures. Sa poésie aux accents de confidence est sensible et fragile.
Alors, Guillaume Mao nous montre que la poésie n'est pas has-been, finalement.
C'est vrai que quand on parle de poésie, on pense tout de suite aux lectures obligatoires au lycée et au bac. La poésie a une image un peu vieillotte. Mais il y a toujours des adeptes. De plus, avec les réseaux sociaux, c'est devenu plus facile de partager des écrits, d'échanger sur la poésie. Il y aura toujours des poètes et des gens pour les lire. C'est ça qui est important. Moins que d'autres types d'écrits, certes, mais le but, c'est aussi de vulgariser la poésie et de montrer qu'elle n'est pas réservée à un cercle restreint. Car à la base, il ne faut pas oublier qu'elle est universelle et qu'elle touche tout le monde. La poésie, c'est notre vie, ni plus ni moins. Et on se retrouve tous dans un poème à un moment ou à un autre.
Et qu'en pensent les lecteurs, Anna ?
Ce sont les lecteurs qui le disent, justement. Il y a certaines personnes qui vont acheter le livre par curiosité, parce que c'est différent de ce qu'on a l'habitude de lire, et les retours sont étonnants. Pour Poésie de jeunesse, par exemple, il y a des lecteurs qui ont été surpris, qui ne pensaient pas que la poésie pouvait les toucher ou même les intéresser. Ils avaient des idées reçues sur la poésie et ils se sont rendus compte que ça les concernait tous en tant qu'individus. Chacun y retrouve son compte. C'est ça qui rend les choses excitantes. Une strophe, un poème, une rubrique, on est tous concernés. Je vous invite donc à vous procurer Poésie de jeunesse sur Internet.
Merci beaucoup, Anna.
Au plaisir, Diarra.
Alors on dit quoi ? C'est fini pour aujourd'hui. Samedi prochain, place à l'engouement des mangas en Afrique. S'il est longtemps resté confidentiel et peu considéré, le manga japonais s'installe peu à peu en Afrique et s'adapte aux contextes locaux. Boubacar, Alpha et Stéphanie ont un point commun. Ils sont tous trois fans de manga, ils nous raconteront leur passion. La manga mania en Afrique, dites-nous ce que vous en pensez. Nous attendons vos réactions au 33 647 740 742. Contactez-nous dès à présent. Et merci infiniment pour votre soutien qui est de plus en plus fort chaque jour. Et bien sûr, merci infiniment à toute l'équipe de l'émission, Claire, Beverly, Mariam, Dibril et Guillaume. On se retrouve samedi prochain, même heure, même fréquence sur RFI. Retrouvez dans un instant les suites des programmes. Bon week-end, salut, Ranangol.